Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, échange en cours de 70 prisonniers ukrainiens et russes, parmi eux, selon Moscou, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Nous serons en ligne dans un instant avec notre correspondant Russie, Claude Brouillot. 7 des 9 pays ayant en partage l'Amazonie. L'Amazonie abîmée par les incendies s'engagent à prendre des mesures concrètes, précision d'Olivier Poujade. Quelles offres de reprise pour la compagnie Aigle Azur dont les avions sont cloués au sol depuis hier soir? Élément de réponse, Ilan Malka. Nous rendrons également à Bordeaux, à l'Université d'été de La République En Marche, concentrée sur l'organisation des élections municipales. Puis la Bulle Écho de ce samedi est consacrée à l'audition cette semaine par les parlementaires européens de la candidate à la présidence de la BCE, Christine Lagarde. Avant-hier, le président russe Vladimir Poutine évoquait un échange massif de prisonniers en voie de finalisation. Fin juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui aussi s'était montré très optimiste. Deux déclarations significatives qui laissaient augurer d'un règlement, d'un lourd contentieux entre les deux pays aux relations houleuses depuis 2014. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Mathieu.
Claude, 70 prisonniers, en tout, vont recouvrer sous peu la liberté.
Oui, absolument. Et le plus médiatique de tous, c'est évidemment Oleg Sentsov, donc, qui est de retour sur le sol ukrainien 5 années après son arrestation et surtout après cette condamnation à 20 ans de prison par la justice russe. Le cinéaste ukrainien avait toujours combattu les accusations dont il était l'objet, en l'occurrence avoir tenté de commettre des actes terroristes en Crimée, sa région d'origine, annexée par la Russie, on le sait, en 2014. Emprisonné en Sibérie occidentale, Sentsov était allé jusqu'à faire, souvenez-vous, plus de 4 mois de grève de la faim pour tenter d'obtenir sa libération et aussi celle de tous ses compatriotes prisonniers en Russie l'an dernier. Mais malgré une large mobilisation internationale, notamment dans les milieux culturels français, le cinéaste ukrainien a donc dû attendre que la pression diplomatique des Occidentaux, au premier rang desquels figure bien sûr la France, finisse donc par convaincre la Russie de l'intégrer à ce vaste échange de prisonniers. Alors, avec Oleg Sentsov, figurait également dans l'avion qui a rejoint Kiev les 24 marins ukrainiens arrêtés fin 2018 par les Russes dans le détroit de Kerch, à l'est de la Crimée. Cet échange de grande envergure marque en tous les cas le premier vrai signe de détente entre l'Ukraine et la Russie depuis des années.
Merci à vous Claude Brouillot. Claude, vous avez sollicité Zoya Svetova, journaliste indépendante, militante des droits de l'homme. Zoya Svetova, heureuse d'apprendre la libération d'Oleg Sentsov et soucieuse du sort réservé à celles et ceux encore emprisonnés.
C'est un grand bonheur pour moi, pour sa famille, pour les Ukrainiens, pour les Russes qui avaient lutté toutes ces années pour sa libération. Bien sûr, c'est une grande joie pour nous. Mais vous savez, comme chaque joie, comme c'est souvent, c'est un peu, un peu noirci parce qu'il y a des gens qui restent et les gens qui ne sont pas si connus, si célèbres, mais qui figuraient quand même dans la liste de Sentsov, ce fameux liste de Sentsov qui était déclarée par Oleg Sentsov quand il faisait sa grève de faim il y a un an. On peut dire qu'il était le plus responsable de cet échange, de cette libération de Sentsov et des autres. Moi, j'aimerais citer en tout cas le président Macron, qui quand même a beaucoup contribué pour que cet échange soit réalisé. Il faut absolument parler de la société civile de France, les gens d'intelligentsia qui quand même il y a un an a fait une grande pression sur le président Macron pour que cet échange soit réalisé, cette libération de Oleg Sentsov, aussi la société civile russe et bien sûr le président de l'Ukraine, le nouveau président Vladimir Zelensky.
La journaliste Zoya Svetova. Les forces israéliennes ont bombardé ce matin des positions du Hamas et ainsi riposté, selon l'état-major, à des tirs de roquettes à partir de l'enclave palestinienne. Hier, 2 Palestiniens ont été tués lors d'une des manifestations organisées chaque semaine depuis mars 2018 à proximité de la clôture séparant Israël de la bande de Gaza. Transparence à l'iranienne, Téhéran annonce avoir mis en route des centrifugeuses dernier cri dont la production accélérera le stock d'uranium enrichi au-delà des quantités convenues dans l'accord de 2015. Ce texte n'autorise que l'utilisation de centrifugeuses de première génération. Téhéran garantit toutefois que la surveillance et l'accès aux installations nucléaires des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique seront assurés conformément, insiste le régime, à ses engagements. Quelles avancées relevées au lendemain d'un sommet qui a réuni 7 des 9 pays qui se partagent l'Amazonie, dévastés par les feux. La Colombie, le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, Guyana et Suriname s'engagent à prendre des mesures concrètes. Mais que comprendre par mesures concrètes, Olivier Poujade ?
Le nom du document signé, ce pacte, nous éclaire sur les conditions posées par chacun des pays, sur les actions communes qu'ils mèneront pour protéger la forêt amazonienne. Les 7 pays sud-américains se sont engagés à mettre en place des moyens pour surveiller par satellite ce territoire et intervenir aussi de façon coordonnée en cas de sinistre, mais uniquement en cas de sinistre. Autrement dit, en temps normal, chacun est libre de disposer de sa part de forêt comme il le souhaite. Le président Bolsonaro s'est d'ailleurs félicité de cette signature en indiquant que ce pacte réaffirmait la souveraineté de chacun des pays amazoniens. C'est en réalité la seule et unique préoccupation du Brésil qui a soigneusement vidé de ses pouvoirs l'OCTA, l'Organisation du Traité de Coopération Amazonien, créée déjà il y a une quarantaine d'années. La préoccupation brésilienne sur l'Amazonie n'est pas environnementale. Jair Bolsonaro, plus que ses prédécesseurs, veut s'assurer que personne ne viendra lui dicter la marche à suivre et que l'Amazonie ne relèvera jamais de la compétence de l'ensemble de la communauté internationale. Une idée relancée par le président français Emmanuel Macron au moment des incendies il y a 2 semaines, mais qui n'a pas été défendue à l'occasion de ce sommet régional. Sur les 9 pays amazoniens, 2 n'y ont pas assisté, le Venezuela et la France.
Début des évacuations Bahamas, ravagé par l'ouragan Dorian, les habitants de l'île d'Abaco fuient la mort et la désolation. 43 victimes, selon les autorités, un bilan qui risque fort d'augmenter et sensiblement dans les jours qui viennent. 9 avions cloués au sol, plusieurs milliers de passagers en attente et 1150 employés dans l'expectative. Les offres de reprise de la compagnie Aigle Azur doivent être déposées ce lundi. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, évoque pour le moment une offre principale de reprise, mais il ne dévoile pas l'identité de ce repreneur potentiel. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Ilan, les syndicats, eux, sont quelque peu divisés sur le sujet.
Oui, quelques noms de repreneurs circulent déjà et certains syndicats font connaître leurs préférences. Par exemple, le syndicat de pilotes SNPL d'Aigle Azur, par la voix de son président Martin Surzur.
Nous soutenons une offre de reprise portée par monsieur Lionel Guérin, ex-PDG de HOP, qui pour l'instant est le seul repreneur qui a pour ambition de maintenir Aigle Azur dans son intégrité dans un premier temps, puis de la développer dans un deuxième temps. Nous ne laisserons pas Aigle Azur être cannibalisé par des repreneurs qui sont peu soucieux des salariés de notre entreprise. Nous allons, dans quelques jours, je l'espère très fort, et j'ai des informations qui vont dans ce sens-là, passer à une nouvelle étape dans la vie d'Aigle Azur.
Martin Surzur, donc, ce matin chez nos collègues de France Info. La CFDT plaide quant à elle pour une reprise en main complète de la compagnie par Air France. Ce serait, selon la CFDT, un bon moyen de redonner confiance aux clients. D'autres, comme UNSA ou FO, refusent de se prononcer pour le moment sur un choix de repreneur, faute de connaître vraiment les projets en question. Écoutons Jean Edou, il est secrétaire général de FO Transport Aérien.
On n'a pas l'intention de choisir notre maître, quoi, en premier lieu, quoi, parce qu'après, on arrive pieds et poings liés pour dire merci monsieur. Donc je ne vais pas me prononcer sur un reprenant éventuel ou un autre. J'ai entendu les ministres dire de période qu'ils s'employaient à faire les choses. Bah, si c'est le cas, tant mieux, mais je dirais pas sans nous, pas sans les salariés. Pour l'instant, il n'a pas fait appel à nous. Donc bon. J'ose espérer que ça va changer.
Syndicats et salariés se rassembleront devant le ministère des Transports ce lundi 11h.
Merci à vous Ilan Malka. Qu'est-ce que le progressisme municipal ? La dernière martingale en date de La République En Marche. L'on doit cette locution, le progressisme municipal, au délégué général adjoint du parti et spécialiste de la carte électorale. Et oui, les municipales de 2020, c'est le chantier de l'université d'été de LREM qui s'est ouverte ce matin à Bordeaux. Rosalie Lafarge.
Dans les allées du parc des expositions transformé en campus LREM pour le week-end, elles sont sur toutes les lèvres ces élections. La République En Marche le sait, il lui reste beaucoup de travail pour s'implanter localement.
Je suis fier et heureux de déclarer ce campus des territoires ouverts.
Le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, en est convaincu, le parti doit évoluer.
Non, je ne crois pas que nous puissions devenir un parti de supporters. Je crois que nous devons être un parti d'adhérents, un parti de citoyens engagés qui convainquent d'autres citoyens. C'est cela notre force et c'est ça le chemin que nous devons prendre.
Ce chemin ressemble de plus en plus à celui des autres formations, ne serait-ce que par l'organisation de cette université d'été, un classique en politique. LREM le refusait jusqu'ici, c'est devenu nécessaire pour le député Sacha Houlier.
Il y a des incontournables qu'il nous fallait faire. Moi, je pense que ces universités d'été ou ce campus, il est essentiel parce qu'il permet de montrer qu'en fait, en termes militants, c'est quand même l'organisation qui en rassemble le plus, qui dans les territoires en mobilise le plus.
Et qui espère surtout en conquérir le plus de territoires dans 6 mois. Mais pour cela, il faut faire grandir ce parti encore jeune. Et pour Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, c'est l'idée du week-end.
C'est un peu le moment de la maturité, parce que le mouvement s'adapte à sa propre croissance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment qui est important pour nous, parce qu'on a envie de se retrouver les uns avec les autres, 2 ans et demi après le début du quinquennat. Et puis, ce sera aussi un moment de discussion, j'espère, très intense entre les adhérents.
Et au terme d'une semaine compliquée pour le mouvement, marquée par l'annonce de la candidature dissidente de Cédric Villani à Paris, La République En Marche s'apprête à modifier ses statuts. Son patron, Stanislas Guérini, promet un processus de décentralisation du parti.
Rosalie Lafarge à Bordeaux.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, la bulle économique revient sur l'audition cette semaine par les parlementaires européens de la candidate à la présidence de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est engagée à ce que la Banque Centrale Européenne agisse davantage en faveur du climat.
Changes will have to take place.
Quand elle prononce cette phrase, il faudra des changements dans son propos liminaire à Bruxelles. Christine Lagarde ne parle que de l'enjeu climatique, car sur le cœur de l'activité de la BCE, pas de changement. La stabilisation des prix reste son objectif premier et le robinet à euros sera encore longtemps ouvert. À court terme, voilà les marchés financiers rassurés, moins les députés européens qui furent nombreux à questionner la française sur sa fibre climatique. Elle, présidente, la BCE utilisera-t-elle ses moyens colossaux pour contribuer à limiter le réchauffement climatique ou continuera-t-elle à favoriser les industries les plus polluantes comme aujourd'hui ? Car c'est incroyable, mais vrai, quand on regarde les secteurs financés par la BCE via l'un de ses programmes post-crise, on constate en effet que 7% de l'argent va vers des produits verts et le transport ferroviaire, mais 63% vers les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, type automobile, production et distribution d'énergie fossile. Climaticide, la BCE, un peu, oui, mais malgré elle. Pour être neutre, économiquement, la BCE achète les actifs financiers qui sont sur les marchés de façon proportionnelle, sans choisir les secteurs. Or, ce sont les secteurs les plus carbonés qui dominent l'économie. Au nom de la neutralité, donc, la BCE renforce les activités qui nuisent le plus au climat. Vous, présidente, Madame Lagarde, ont demandé plusieurs élus européens, notamment les Français, cette situation va-t-elle perdurer ? Un peu gênée, la candidate admet tout de même que graduellement, il serait impératif de faire évoluer la situation si l'on pense qu'il y a une nécessité absolue à lutter contre le changement climatique. Les mots qu'utilise Christine Lagarde sont forts. Le risque climatique doit être au cœur de notre action, dira-t-elle aussi pendant son audition. Tout cela, elle le disait aussi quand elle était à la tête du FMI. On lui connaît notamment cette réplique mémorable. Si on ne fait rien contre le réchauffement climatique, dans 50 ans, nous serons tous grillés et toastés.
In 50 years time, we'll be toasted, roasted and grilled.
À l'écouter, Christine Lagarde fait donc bien partie des convaincus. Mais à la tête de la Banque Centrale Européenne, elle devra composer avec le Conseil des gouverneurs et elle devra surtout composer avec le mandat de la BCE pour qui le changement climatique n'est qu'une des priorités affichées par l'Union européenne. Une priorité parmi d'autres. Favoriser les énergies non polluantes, au détriment des emplois par exemple dans le secteur automobile, c'est un choix politique. Or, la BCE se veut apolitique. L'autre limite à toute velléité d'action immédiate est d'ordre technique. Comment quantifier le risque climatique pour le secteur financier ? Avec quels critères ? On ne sait même pas aujourd'hui ce qu'est un produit financier vert. S'il y a urgence, c'est donc pour le moment encore à réfléchir, élaborer, recommander, a promis Christine Lagarde. La prudence est de mise, mais la peur aussi. Imaginez qu'une banque centrale mesure l'impact du changement climatique et du passage à une économie bas carbone sur tous les produits financiers, qu'elle en conclue qu'ils sont surévalués de temps et qu'elle intègre ensuite cette décote à son fonctionnement. Faire ça, c'est plonger potentiellement la planète finance dans la crise et l'économie avec. Or, le chaos climatique prend son temps, tandis que le chaos financier, lui, est à effet immédiat. cruel dilemme que le patron de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, a appelé la tragédie des horizons en 2015. Sortir de cette tragédie a beau être depuis l'objectif affiché de plus en plus d'institutions financières, BCE comprise, l'audition de Christine Lagarde a montré que la fin de la pièce restait encore à écrire.
La bulle économique de ce samedi à retrouver sur franceculture.fr. La météo de l'après-midi en quelques mots, des averses sur une diagonale qui va de la Moselle aux Charentes-Maritimes, en passant par l'Île-de-France, du soleil au bord de la Méditerranée ailleurs. Quelques belles éclaircies. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique d'Alia.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières.